aujourd'hui. Je voudrais qu'on commence d'abord par un petit peu resituer le contexte. Macarel, vous êtes en 1959 à Liverpool. Parlez-nous un petit peu, vous étiez un enfant avec beaucoup de livres à la maison, vous avez toujours lu, ou c'est quelque chose qui est venu un petit peu plus tard?
I always read books and I always read comics. To a certain extent, I learned to read from comics first. But there is a great British creator, Leo Baxendale, and I loved his stuff. And then I picked up American superhero comics, and it was the start of a lifelong love affair. Liverpool in the late 50s and in the 60s, when I was growing up, was a very poor place. It had been a massive industrial powerhouse, a great maritime port, but all of that was falling away. There was no employment. We were very poor. So I think I read to escape. And then at a certain point, I thought it was right. Yeah, books and comics were always a huge presence in my life.
Non, les comics ont toujours eu un rôle très important pour moi. Je veux dire que j'ai appris à lire avec les comics. Vraiment, il y avait un auteur britannique vraiment formidable, c'était Leo Baxendale, et je pense que c'est avec lui que j'ai vraiment découvert la lecture. Et après, je suis passé au super-héros américain et aux comics américains, et je pense qu'ils m'ont toujours accompagné à partir de ce moment-là. C'est intéressant de noter que Liverpool, à l'époque de ma naissance, donc en 1959, était une ville qui était déjà très très pauvre. Elle avait connu un passé assez glorieux sur le plan industriel et également en tant que grand port maritime. Mais quand j'étais jeune, on a connu la pauvreté et le chômage. Et donc, les comics, la lecture, pour moi, c'était vraiment une forme d'évasion.
Et à partir de quel moment vous vous êtes dit, je vais commencer à raconter mes propres histoires?
Something that was just always bad for me. I have a little brother, Dave, who is 5 years younger than me, and I used to tell stories for him. I used to also make comic books for him. Our parents like to gamble on horses, like to bet on horse races. And at the betting shop, they would give you little squares of paper to write your bet on. Stories to my brother. So I think storytelling was always, again, it was just always a part of my life. And at a certain point, I began doing it for fun outside of the family unit. But I didn't get paid for it. It was just something that I liked to do.
Ça a toujours été là pour moi, les comics, les livres. J'ai un petit frère, j'ai un frère Dave qui a 5 ans de moins que moi, et donc j'aimais bien lui raconter des histoires. Et nos parents aimaient beaucoup miser sur les courses de chevaux, et quand on va miser sur les chevaux en Angleterre, on met sa mise sur des petits carrés de papier. Et donc mes parents y rentraient à la maison avec tous ces petits carrés de papier, des centaines de petits carrés de papier. Quand je reprenais ces petits carrés de papier, je faisais des petits dessins, tu vois, je les faisais très très mal, mais je les utilisais pour faire des petits dessins que j'utilisais quand je racontais des histoires à mon frère. Et donc j'ai toujours eu cette envie de raconter ces histoires, et puis des histoires, et puis finalement je me suis éloignée du cercle familial, j'ai commencé à raconter des histoires un peu à l'extérieur, et je n'étais toujours pas payée, mais j'ai toujours eu cette passion pour raconter des histoires.
Quels étaient vos héros préférés? Quels étaient les auteurs que vous suiviez particulièrement?
The first prose writer who I got really addicted to was Enid Blyton. I don't know if her works have been translated. The Far Away Tree and the Magic Wishing Chair, those are the first fantasies that I read, and I absolutely loved them. I guess that's why, at a very early age, I'd already made a commitment to fantastic literature. As I grew older, I began to read heroic fantasy, Michael Moorcock, Tolkien, Madame Peake, what is the last name? American science fiction. in terms of comics, I began my reading the sort of classic American books of the 60s, Jack Kirby, drawn by Jack Kirby, written by Stan Lee. There was kind of a turning point in American comics in the 1980s when three great British writers went across to America and completely reinvented the monthly comic book. They were Alan Moore, Neil Gaiman, and Grant Morrison, and they've always been three of my biggest heroes. I profited from their experience because they went across to America and they carved out this empire over there. And there was a time when American editors thought that every British writer was like that we had an entire island full of Alan Moores. So they would come over and attend British conventions and try to recruit British writers. start with Lucifer. In Sandman, Lucifer resigns from hell. He leaves hell, leaves the throne of hell, comes to live in the city of Los Angeles in America, and he opens a piano bar. So they wanted to do a story following what happens to Lucifer in the city of the angels. And they said, do you want to pitch for this book? And I said, yes, please, please, please. And they said, but do you want it badly enough that you're not going to sleep for the next 7 days because we need a pitch in 2 days and we need a script in 7 days? That's how close we got to deadline. So I just did it. And I never looked back.
Jusqu'au jour où donc je reçois ce coup de fil et c'était Vertigo qui me demandait si ça m'intéressait de faire une suite à Sandman. En fait, ils avaient eu cette idée de suite à Sandman où on voit Lucifer qui décide de quitter l'enfer, il démissionne de son poste, il quitte son trône et il va dans un piano bar dans la cité des anges, donc Los Angeles, ça, Lucifer dans la cité des anges. Et donc on me demande l'idée de plaire parce que tu as 2 jours pour préparer le pitch et 1 semaine pour nous présenter un scénario. Et j'ai dit oui, que j'étais partant et voilà comment tout a démarré. Et c'est là où ma carrière a connu son véritable départ. Ça s'est passé vers 1991 et je travaille pour eux depuis. Il n'y a pas eu une seule année depuis où je n'ai pas travaillé pour Vertigo.
Est-ce que c'était difficile de s'approprier l'univers de Sandman? Est-ce que vous avez pu discuter peut-être avec Ned Gaiman?
Sandman was to create a mythology which kind of brought together, overarched and brought together all of the existing mythologies of the world. He created a stage where Judeo-Christian angels could talk to Japanese storm gods or Native American tribal gods, and it all made sense, so that there was almost nothing that you couldn't do in that universe. It was wide open, and it was wonderful to play with those characters.
J'avais trop réfléchi trop longtemps, peut-être que j'aurais plus de mal. Et ce que Damien a fait avec Sandman, ça a facilité la tâche, parce qu'il avait jeté les bases d'un nouvel univers, et tout est dans ce Sandman. Tout est là, la mythologie est là, c'est un point de départ assez extraordinaire, où les anges peuvent dialoguer avec des cultures différentes, que ce soit au Japon, en Amérique du Nord, et donc tout était possible. Il avait vraiment jeté des bases créativité pour la suite.
Peut-être une autre série sur Vertigo sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, c'est The Writer. Ça n'a pas été traduit en français au niveau du titre, mais ça a été traduit. Donc l'histoire d'un petit garçon qui va aller chercher son père dans un autre monde. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez venu l'idée et comment vous avez construit cette histoire?
An amazing comic artist. And when we finished with Lucifer, we desperately wanted to work together again. We just knew each other really well. We had this great rapport going. So we pitched a lot of books to Vertigo. We pitched literally dozens of ideas, and none of them went anywhere. And then we were at San Diego Comic-Con about 8 or 9 years ago, and we were talking with one of the editors at Vertigo, Blonsack. And Peter had an idea for a character who we would follow both in reality and in the story. So we'd meet this person as a real person and as a character in somebody else's story. And I had an idea about the magic trumpet, the trumpet which in new mythology, it sounds the end of the world, but the beginning of a new world. So at the end of each age of the world, the trumpet would sound. And I had a story where a guy just finds the trumpet and blows it, not knowing what it is. And Paul and Zach said, why don't you do both? Why don't you just bring the two stories together? And we thought this was the stupidest idea we'd ever had, but that was exactly what we did.
Et déteste vraiment ça.
Bon, on est en train d'arriver tout doucement au lieu, mais juste avant, je voudrais qu'on fasse une dernière pause sur les comics. Parce que vous n'avez pas travaillé seulement pour Vertigo, mais aussi vous avez travaillé sur les X-Men, notamment. Alors, comment est-ce qu'on travaille sur les X-Men quand on a travaillé dans une maison aussi indépendante à côté?
One of the first comics I loved as a child was the X-Men. So I read the X-Men right from the first issue. There were times when I stopped reading it, but I was caught up again. And I'd have little binges where I'd sort of think, what are the X-Men doing now? And I'd buy a whole bunch of back issues. And there is something really wonderful and special about adding chapters to a story that you read and loved when you were a child. It's an amazing experience. It was a little weird, but if you grow up reading superhero stories, they don't seem silly to you. You actually sort of accept their premises. They're effectively like mythological texts. They're the myths of the modern age. And I think it's something I always wanted to do, to write superhero stories. I've kind of got it out of my system now, but it was wonderful.
Des X-Men, et bien moi j'ai toujours lu hein, depuis le premier numéro, et puis parfois j'arrête un petit peu, et puis là je me dis, ah ouais, je me demande ce qui se passe dans les X-Men, et puis je vais acheter plein de numéros, et puis je me mets à jour dans les aventures des X-Men. Et c'était vraiment formidable d'avoir cette occasion d'ajouter des chapitres à la vie des X-Men. Je trouvais que c'était une aventure assez extraordinaire, parce que quand on a toujours aimé des super-héros, quand on a grandi avec ces super-héros, amis, en fait, c'est normal pour vous. Et c'est un petit peu la mythologie contemporaine, quelque part. Donc, ils ont remplacé, ils sont devenus des véritables mythes. Et pour moi, ça, c'était une expérience assez formidable qui a développé, comme je le disais, des chapitres à leur histoire. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'en avoir un peu fait le tour, quand même.
Comment est-ce que de scénariste, on devient romancier? Comment est-ce que vous avez fait le passage?
When I started as a teacher for 15 years, my day job was teaching. And when I stopped teaching to write, it was kind of terrifying. You know, the first month when you don't get a paycheck, when it gets to the end of the month and there's no money, you panic. And so, as a freelancer, as a writer who's not sort of tied to one publisher or one sort of story, you just say yes to everything. Because if you say yes 20 times, maybe two things will actually happen and you'll get paid for them. And I kept on doing that. I kept on just saying yes to everything. And at one point, a friend of a friend of a friend, someone who I hadn't known very well at all, got a job at Warner Brothers doing the in-between animation. And she had a friend who was a filmmaker in Luxembourg, Thierry Schiel, and he wanted to do a cartoon adaptation of Tristan and Isolde. And he wanted to do it absolutely straight and serious. A medieval story with its adultery and its cruelty, no holds barred. And Claire introduced me to, my friend introduced me to Thierry, and I wrote this movie scenario. He was a lunatic, unfortunately. He kept on changing his mind about stuff. So he'd go and see The Lion King, and then he'd come back and say, "We've got to have an African shaman in the movie." But it's set in medieval Europe. Yeah, we still have to have an African shaman. So I went through like 2 dozen drafts on this monstrous thing. It did come out. It actually had a theatrical release here in France. Absolutely bombed because it was terrible. But that kind of gave me the start, and it did some work for German television. So it was always sort of bubbling under along with the other things that I was doing.
Tout à fait accidentellement, je dois dire, donc pour répondre à la question, j'ai été prof pendant une quinzaine d'années, et j'ai arrêté, donc j'ai démissionné de mon poste, et quand on a eu ce chèque de paye tous les mois pendant plusieurs années, au début c'est un petit peu effrayant. De quoi on va vivre. Et quand on est pigiste pour plusieurs éditeurs, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour
un petit mot sur la première série, Félix Castor, un détective de l'étrange, exorciste. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née l'idée de ce personnage et de cette histoire?
I was, at that time, I was writing the comic book Hellblazer, which has now become the TV series Constantine. And I guess Hellblazer was my pitch. I showed it to an editor, a British editor, Darren Nash, and said, I can write you a novel that was a little bit like this, that had this flavor to it. And he was a great comics fan. He liked Hellblazer very much. So he commissioned the book, which became 5 books, and there will be a 6th at some point. But I've always hated, I like urban fantasy, but I kind of hate stories where you have vampires and werewolves and zombies and demons, and they've all got their own different things going on and their own different rules and their own different reasons for being. So what I wanted was a story that would have a lot of those supernatural entities in it, but only one mechanism, one explanation. So in Castor, the world has started to see the dead come back to life suddenly for no reason, or for no reason that anybody knows it started to happen. Mostly they come back as ghosts, but some of the ghosts are afraid to leave their own body, their own flesh, and that's what a zombie is. A zombie is just a ghost that haunts itself and animates itself. And some ghosts leave their own body, but then they start to get homesick, so they invade an animal body. Reshape it and redecorate it, and that's what werewolves are. They're just human ghosts in animal bodies. And the demons are also human ghosts that have been changed in some profound ways. So it's like one mechanism that follows through all the way.
Pour Félix Castor, c'est le pitch de Hellblazer. Je ne sais pas si vous avez vu la série Constantine. Alors là, ça c'était. J'ai pitché cette idée à Darren Nash aux États-Unis. J'avais envie d'écrire un roman aussi, peut-être ça serait une bonne idée. Donc, du coup, il y a eu un premier livre, puis là, il y a le 6e qui va sortir. Et ce qui me plaisait, c'était un grand fan de comics, et bon, ça lui plaisait bien, il était fan de Hellblazer, et ça lui plaisait bien comme idée. Donc c'est pour ça que maintenant, on en est au 6e. Et la différence, moi, ça commençait à me lasser d'avoir des explications différentes en fantasy urbaine avec les loups-garous, les vampires, et des démons et les autres personnages surnaturels, et moi j'avais envie de créer un monde de personnages surnaturels qui serait devenu pour une seule raison. Donc je voulais créer une seule explication qui expliquerait tous ces personnages surnaturels. Et donc cette explication, que ce soit par exemple que les morts vivants, ce soit simplement que tout le monde, les fantômes reviennent, et les morts vivants, les zombies, ce sont des fantômes qui ont eu peur de quitter leur corps. Ou alors des fantômes qui sont devenus simplement fantômes, mais qui ont eu la nostalgie de leur corps et qui réintègrent leur corps. Le cas du loup-garou, c'est le fantôme qui ne se sent pas bien son corps et donc qui prend possession du corps d'un animal, donc ça devient un loup-garou, et ainsi de suite pour tous les surnaturels. La même chose pour les démons, par exemple, c'est un fantôme qui est arrivé à un traumatisme et qui devient démon suite à ce traumatisme. Donc c'était une unique explication pour expliquer tous les personnages surnaturels.
I was a big fan of Raymond Chandler's hard-boiled detective stories, and I was kind of trying to write a hard-boiled detective story where the detective is actually an exorcist, but he's an exorcist like a Chandler private eye. He's an exorcist who walks the mean streets. He wears a trench coat. He does it for $50 a day plus expenses. It's that kind of world.
J'étais vraiment fan de Raymond Chandler aussi, et j'avais envie de créer un détective qui soit en même temps un exorciste. Et donc ce détective, il déambule dans les rues la nuit, il est revêtu d'un imperméable, il se fait payer $50 par jour plus les frais pour faire son travail de détective. Et donc c'est aussi un hommage au roman de Chandler.
Elles sont assez bien, tous les deux. Pareil, un petit peu même question, comment est née l'histoire dans votre esprit et qu'est-ce que vous avez envie de faire?
I was very, very lucky, because it's not a story that I would ever have thought up for myself, really. It was forced on me. there is an anthology of short stories, an annual anthology, which is edited by Charlene Harris and Tony Kelmer. Every year they choose a very, very innocent, very banal theme. Like one year it was family holidays, another year it was home improvements. And I said I would do a story, and they told me, well, the theme for this year is school days. So it has to be a supernatural story or a horror story set in a school or with a school theme. And I said I would do this thing, I said I would write this story. And then for 4 months I couldn't think of a single decent idea. Everything I came up with was just a really bad Harry Potter ripoff. And then one morning I woke up with the image of Melanie, a little girl sitting in a classroom writing an essay. You know, the essay that you always had to write in school, what I want to do when I grow up. She's writing that essay. But we know that she's never going to grow up because she's a zombie. She's never going to be allowed to grow up. She's a zombie, actually, she's a sort of an experimental subject. That everything sprang from that image. I wrote the short story in 4 days, and then I realized that the short story was the start, was actually the first chapter of a novel. So I wrote the novel, and I wrote the screenplay. Melanie keeps on giving.
C'est une chance extraordinaire que j'ai eue parce que je pense que l'idée ne me serait jamais venue toute seule comme ça. Et c'est une idée qui m'a été imposée. Il faut savoir que Charlene Harris, tous les ans, dirige une anthologie et les sujets sont toujours alors du genre très banal, comme les vacances en famille. Alors là, elle m'a contacté, on s'est contacté, et elle m'a dit oui, j'aimerais bien que vous participiez à cette anthologie. Mais je lui ai demandé le sujet c'était l'école. Donc il fallait créer une nouvelle pièce qui serait autour de l'école, mais qui serait surnaturelle ou alors dans l'horreur carrément. Et je me suis dit que ça allait être compliqué parce que j'ai passé 4 mois à essayer de chercher une idée et tout ce que je faisais c'est complètement nul, je trouvais que dalle. Et au bout d'un moment, tout d'un coup, comme ça, m'est venue l'idée d'une petite fille, Mélanie, l'école et qui doit écrire comme tous les enfants ont été obligés de le faire à un moment donné dans leur vie à l'école, qui doit écrire ce que je veux faire plus tard quand je serai grand. Et donc Mélanie a écrit son petit texte sur ce qu'elle voudra faire. En fait, on sait qu'elle ne va jamais grandir parce qu'au fond, c'est une zombie et elle est sujet d'expérience et elle ne va jamais grandir. Donc en 4 jours, j'ai écrit la nouvelle et je me suis dit, ah là, mais ça, c'est vraiment le premier chapitre d'un roman. Et donc voilà, j'avais le premier chapitre du roman et après j'ai continué, c'est devenu le roman.
Est-ce que c'est facile d'écrire sur les zombies quand il y a plein de films, de livres, de bandes dessinées? Est-ce qu'il y a des influences, des choses qui vous avaient marqué, que vous aviez envie de faire avec ça?
I think my biggest influence was Mary Shelley's Frankenstein, which looked at from one angle is a zombie novel. It's certainly about a guy who comes back from the dead, or he comes back in jigsaw pieces. But it's also a story in which the monster is also the innocent victim. Frankenstein only becomes a monster because Victor, the creature, only becomes a monster because Victor Frankenstein, having created it, runs away from it, refuses to take any responsibility for it. And it's actually, Shelley was a political radical, and it's very much a story about the obligations that we owe each other in society, the obligations that our parents owe to children, but also the obligations that the rich owe to the poor, the people who have power owe to people who don't. I guess I wanted to write a zombie novel that would touch on some of those same themes. I wasn't particularly drawing on any of the other zombie movies or zombie TV shows that were around at the time, although I do love Walking Dead and I love Land of the Dead. There are a lot of great zombie narratives, but I was kind of going a bit, I was drawing on something else, I think.
The plus grande influence, essentiellement, était le Frankenstein de Mary Shelley, parce que là, c'est comme un être créé de toute pièce, comme un puzzle qu'on a assemblé. Et ça me plaisait bien de voir cet être que son créateur finit par
est-ce que finalement, dans votre roman, c'est pas Mélanie le personnage le plus humain?
She is the most human. She's also kind of the touchstone for everybody else's humanity. So this little zombie girl, this 10-year-old zombie girl, who is actually very cute, very sweet, very intelligent, very emotionally warm. She's a nice kid. You judge everybody else in the novel by whether they are able to make the jump and to see the child inside the monster. In a way, whether they are able to do that or not, that decides their fate, that decides what happens to them in the story.
Oui, effectivement, Mélanie a toutes ces qualités. Elle a 10 ans, elle est mignonne, elle est intelligente, elle est chaleureuse. Et ce qui arrive, c'est qu'à la fin, on finit par se dire que, on finit par comprendre que la réaction qu'ont les autres personnages à cette petite fille, ceux qui sont capables de voir son côté humain, de percevoir son côté humain, c'est très déterminant, ça sera très déterminant pour leur destin dans l'histoire.
Is also kind of a coming of age story, in spite of the fact that she is a zombie and a laboratory rat. In a way, the journey that she has to make is the journey that every child has to make. She starts off by seeing the adults around her as all powerful and sort of having the answer to every question, particularly her teacher. It's just, you know, she has an incredibly strong crush on her teacher, she worships her. In the course of the story, she has to realize that all these adults have their limitations, the things that she can do that they can't. And it's that, I mean, who in the end has to make the decision as to what will happen to the entire world, what the future of the world will be.
Sur la réaction des lecteurs, parce que j'ai lu quelques commentaires sur parfois certaines scènes de dissection à pas trop en dire. Quelles sont les réactions que vous avez eues justement de lecteurs là-dessus?
It's been very positive, the review. I think the only reader who had a very strong negative reaction from was my mother-in-law, who said to my wife, how can you share a bed with this man?
Les réactions étaient très très positives. La seule réaction négative au livre vient de ma belle-mère qui a dit à mon épouse : mais comment tu peux dormir avec lui ?
Un petit mot sur le film qui arrive, parce que ça c'est la grande chance. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment est-ce que le projet est né de ce film ? Et puis je crois que vous avez été plusieurs fois sur le tournage, vous en direz un peu plus. So we developed it together. See, at the same time as I was
it's like they're filming the inside of my head. And that's how I feel when I'm on set, watching this happen. It's like I'm filming the inside of my head. They're getting everything right. It's just wonderful.
Si quelqu'un a vu le film de Watchmen qui est de David Gibbons et qui est basé sur l'œuvre de Alan Moore, et bien quand j'ai rencontré David Gibbons, je lui ai demandé son avis sur le film. Il m'a dit mais c'est vraiment formidable, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait vu ce que j'avais à l'intérieur de ma tête, comment moi j'imaginais le film. Et à mon expérience pour ça qu'il y a tous les ans, c'est exactement la même chose. Je trouve que c'est absolument incroyable, c'est comme si ils voyaient à l'intérieur de ma tête, comment moi je voyais le film, donc c'est vraiment une expérience formidable.
Parlez-nous de votre visite sur le tournage. Vous avez vu Glenn Close, et la jeune fille qui joue Mélanie.
Spencer Yenaro, yes. The two scenes that I saw them shooting, one was there's a scene in the book where the children are asked to write a story, and Melanie tells a story about a little girl who slaves, there's a woman who's fighting a monster, and the monster defeats the woman. And then this brave little girl runs in and saves her. And it's obviously a story about Miss Justino, and Melanie herself is a wish fulfillment. And at the end of the story, Miss Justino is crying, and she strokes Melanie's head, and it's the first time in the 10 years that she's lived that anyone has physically touched her, because it's not allowed on the base. There is no contact because these kids are dangerous. They carry the infection. So I saw that scene being filmed, and I saw the dissection. The dissection scene. Which is amazing.
Oui, 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 j'espérais sur les lieux du tournage. J'ai vu Glenn Close, c'est la petite fille qui joue le rôle de Mélanie. Et les scènes que j'ai vues, eh bien, c'est une scène où Mélanie écrit une histoire, et elle écrit une histoire sur un monstre qui attaque une dame. Et à la fin, c'est une petite fille qui vient sauver la dame du monstre. Et puis, c'est évidemment, bien sûr, une projection qu'elle fait. Elle imagine Mademoiselle Justino dans ce rôle et elle-même dans le rôle de la petite fille. Et quand elle a fini d'écrire son histoire et que Mademoiselle Justino lit l'histoire, Mademoiselle Justino est vraiment en larmes et elle tend la main pour caresser la tête de la petite fille, de Mélanie. Et là, on se rend compte que, en fait, Mélanie n'a jamais été touchée par personne parce que c'est une zombie, elle est très dangereuse et il ne faut surtout pas la toucher. Et c'est la première fois qu'elle a ce contact physique avec une autre personne. Et c'est très émouvant. Et l'autre scène que j'ai vue, c'est la scène de la dissection. Et c'était vraiment assez fabuleux. J'ai vu la scène la plus sentimentale et la scène vraiment la plus horrible. Et c'était extrêmement bien tourné et c'était exactement comme j'avais imaginé ces deux scènes.
Un dernier mot, parce qu'on arrive à la fin. Quels sont vos projets d'écriture? Et je crois qu'il y a peut-être une idée un petit peu dans l'univers de Cinquième tous les deux.
I just delivered the next novel, which is nothing to do with Sophia Tilidon. It's a ghost story set in a prison. But I'm going to return to this world and write a story that's taking place roughly at the same time as these events, but somewhere else. And it doesn't involve any of the same characters. I'm also going to carry on doing movie screenplays because people are offering me work, which is great. And I'll carry on writing comics because I love writing comics. Actually, writing in different mediums is a great, really great thing to do, because I think it forces you to use different sets of tools, and it keeps you from going stale. It keeps you from kind of just doing the same story again and again.
Bien, je suis déjà au travail sur mon prochain roman, mon roman suivant, c'est une histoire de fantôme, alors rien à voir avec cet univers. Et j'ai l'intention de retourner à cet univers, à la même époque, mais ailleurs, avec d'autres personnages. Je ne vais pas reprendre ces personnages. Je continue également de travailler comme scénariste, parce que je suis assez sollicitée maintenant, et ça me fait plaisir. En fait, c'est assez sympa. Et je continue également dans les comics. Donc ça m'amuse bien, ça m'intéresse beaucoup de continuer d'écrire, mais de différentes manières. Ça m'empêche de stagner et c'est toujours très stimulant et très créatif comme environnement de travail. Donc oui, je continue d'écrire dans tous les genres.
This year is a big year for me because it's the first time ever that I'm writing a bande dessinée for a French publisher. It's going to be called Highest House in the Old Palais. Peter Gross will do the art, and it will be published by
place. Et puis, de nouveau en France bientôt, j'espère. Merci.